CO2 Mon Amour avec le WWF. Agissez pour préserver les ressources naturelles de notre planète. Plus d'infos sur les dons, legs et assurances vie sur www.fr.
Amis soudanais, bonsoir. Je viens d'un petit village nommé les Batignolles. On est une bande de vieilles copines, moi c'est Marie-Fleur, regroupées au sein d'une petite assoce écolo, venue vous dire de façon très amicale qu'il faut arrêter de couper votre forêt. Stopper cette sale manie de niquer les arbres sous prétexte de nourrir sa famille.
CO2, mon amour.
Dans le 17e, on est terriblement bio. On est bio, on est bio. Ouh, on est... Qu'est-ce qu'on est bio? And I prove you. Because Magellapa, en papier sucre, est mangeable.
Denis Chessou.
Et mon string en écorce est replantable.
Eh oui, monsieur Bénureau, donc pour débuter cette émission exceptionnellement enregistrée, CO2 Mon Amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, avec Dimitri Greneuf aujourd'hui à la technique, et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pestudia qui réalise l'émission. Oui, on les entend. Mais écoutez, moi j'ai un voisin un peu frappadingue, parce que au lieu de coller sur la porte de son jardin la mention « chien méchant » ou bien « je veille » avec de gros yeux fiévreux de milicien, ben, il a peint une pancarte écrite en rouge sur fond jaune bouillon cube, vous voyez, « Attention aux salamandres », avec un portrait dessiné de la bestiole en couleur, pour pas la confondre avec une fraise des bois. Alors, juste pour rappeler à ses contemporains qui roulent devant chez lui la nuit en torpedo, de bien ouvrir les yeux, les doux soirs pluvieux de printemps, et de bien utiliser l'option anti-brouillard de leur crossover pour ne pas transformer le batracien, tout juste sorti d'hibernation, en autocollant sur l'asphalte. Eh oui, car grenouilles, tritons, crapauds, rainettes et salamandres existent, figurez-vous, et ces pauvres bestioles, eh ben, ont le droit aussi à quelques instants d'amour fou, sans passer par un site de rencontre, sans risquer leur humble et discrète existence. Si discrète qu'on les ignore. D'ailleurs, puisqu'ils font rarement les unes de la presse, puisqu'on les écrabouille en pleine conscience dans la lumière des phares, on ne saisit pas clairement le profit. Car après tout, en sortant des bois pour regagner leur mare natale, pour s'accoupler, ils nous débarrassent sans bruit et avec quelle efficacité des limaces, insectes rampants, mouches et larves de moustiques par millions, ce qui nous évite quand même quelques tonnes supplémentaires de saloperies chimiques à répandre autour de nos maisons. Alors par pitié et aussi par intérêt même, levons le pied par les nuits humides car la Saint-Valentin des pélodites jolies grenouilles, vertes et rousses et flamboyantes, vient vraiment de commencer. L'opération Fréquence Grenouille bat son plein dans toute la France, donc soyons vigilants sur ces routes glissantes, ça ne coûte rien et cela vous évitera peut-être d'emplâtrer un platane, platane qu'il faudra couper puisque ce sera encore de sa faute. Et alors pour rester aussi dans la période des amours, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien que Wanwan, c'est notre femelle panda du zoo de Beauval. Eh bien elle montre les premiers signes de sa période de fertilité et là il ne faut vraiment pas se louper. Car le couple vit séparément, hein, ils seront mis en contact 48 heures, ah ouais, la fenêtre de tir, hein, si j'ose dire, est très courte. Tout ça pour discuter, envisager la garde des enfants et accessoirement se reproduire. Mais le panda mâle, Wanzi, sûrement traumatisé, vous savez, par le syndrome de l'enfant unique ou bien pas d'enfant du tout chinois, est une feignasse en général. Et oui, pour manger des pousses de bambou au kilomètre, alors là, il y a du monde. Mais pour se reproduire, c'est une autre affaire. Et pourtant, tout y est. Un papa, une maman, voilà, ça peut fonctionner. Donc, il s'agit de pas faire comme certains bambous qui fleurissent tous les 30, 40 ou 100 ans. Déjà, on vous loue une fortune à nos amis chinois, avant qu'un jour, peut-être, ils rachètent le zoo. Alors, allez-y, chauffez-vous un peu, parce que le transpandanisme ou le panda augmenté, c'est pas encore pour demain. Bonjour Frédéric Danhé, vous ne faites pas le panda, vous?
Oui, ben j'ai mis ma combinaison et j'attends, donc j'attends une ovulation. Voilà.
Ben voilà, vous avez raison. Alors parlons de notre actualité. C'est la filière de la banane antillaise qui a été condamnée à retirer sa campagne de communication qui a été lancée au Salon de l'Agriculture, où elle se présente comme mieux que bio. Bon, alors c'est un petit détournement d'usage, c'est un mensonge visant donc à profiter de l'engouement des consommateurs pour le bio, Frédéric.
Ils ont posé une bonne question en y apportant la plus mauvaise réponse. Donc l'UGPBAN, hein, l'Union des producteurs de bananes, vous l'avez dit, de Guadeloupe et de Martinique, a lancé cette campagne, hein, la banane française, mieux que bio, c'est possible. Et puis le syndicat des transformateurs de produits bio, hein, le SINABIO, a dit mais non, c'est n'importe quoi, ça dénigre le bio, ça le dévalorise. Et donc ils ont porté plainte au tribunal de grande instance de Paris qui, le 1er mars, a exigé que l'UGPBAN retire cette campagne de pub, l'estimant effectivement dévalorisante pour le bio, puis surtout non fondée, donc trompeuse pour le consommateur. Et c'est vrai, faire mieux que bio, c'est difficile quand on ne l'est pas bio soi-même. Or, les producteurs, je crois, à une exception près de Martinique et de Guadeloupe, ne sont pas bio. Alors, ils ont réduit leur usage de pesticides considérablement, de 60 à 70%, c'est énorme, mais ils peuvent difficilement être bio dans la mesure où le sol est tellement gavé de chlordécone, qui avait été déversé pendant des années, qu'ils en ont encore pour 30 ou 40 ans. Néanmoins, ils ont posé une bonne question, à savoir, hein, la campagne c'était, nous on est mieux que bio, que le bio de Costa Rica et de je sais plus, la Dominique je crois, ou de Saint-Domingue, en disant, voilà, ça c'est du bio low cost, qui est importé massivement en Europe par la grande distribution, mais c'est pas du vrai bio, parce que là-bas, ils utilisent des produits chimiques, ce qui est complètement faux. C'est faux,
oui, c'est
les produits
faux.
Qui sont utilisés sont des produits qui sont validés par toutes les instances bio, puis de toute façon, les bananes qui arrivent de là-bas en Europe subissent les mêmes contrôles que les bananes martiniquaises et que tout autre fruit et légumes bio. Par contre, à la limite, ils auraient pu se dire, ben voilà, c'est pas vraiment du bio parce que là-bas, les paysans sont exploités, peut-être, parce que un des aspects importants du bio, c'est que le paysan vive hein, de ce qu'il produit. Non, c'est même pas ça. Donc, ils ont posé une bonne question, à savoir, est-ce que c'est tout à fait du bio? Mais ils ont apporté de mauvaises réponses. Néanmoins, si j'ose dire, la banane est entrée dans la plaie, qui est une plaie de plus en plus grande dans le monde du bio. Le bio s'interroge véritablement sur ce qu'il est. Est-ce que le bio, tel qu'on le connaît aujourd'hui en France, doit être le même que le bio importé de l'étranger? Est-ce que c'est le même bio aux Antilles où on est sous un climat tropical?
Tout à fait humide, donc c'est pas aussi simple que ça. Quoi.
Il y a plus voilà, d'attaques parasitaires. En fait, voilà, cette polémique n'aurait jamais été aussi, aussi forte que si le monde du bio ne se posait pas une question existentielle qui est liée au fait qu'aujourd'hui le marché s'ouvre à lui, mais que ce marché il est alimenté en grande partie parce que le bio historique n'arrive pas à satisfaire la demande. Ce bio est de plus en plus alimenté par du bio venu de l'étranger qui crée des doutes chez le consommateur. Et donc c'est très intéressant parce que le bio est en train de s'interroger véritablement sur, bah, sur son cahier des charges, sur la façon de communiquer avec le public. Donc une bonne question mais avec une très très mauvaise réponse. C'est pas mieux que bio la banane antillaise, c'est pas vrai.
Frédéric Danhé, puisqu'on évoque aussi donc la banane bio, c'est vrai qu'il y a, enfin, à notre connaissance, aux Antilles, à la Martinique, un homme qui s'appelle Michel Larougerie, qui est donc à la ferme du Morne Capot, qui doit se trouver dans le nord-est donc de cette île, et qui est passé donc à la Cavendish bio, et qui d'ailleurs nourrit complètement son sol. Il est dans une forêt, il sort à peu près 50 tonnes donc à l'hectare, donc ça marche quand même bien, et parce qu'il a travaillé le sol.
C'est pas le même environnement que les collines déboisées qui supportent les bananeraies. Donc il est en forêt, donc on peut pas tout à fait comparer. Néanmoins, oui, lui, il a travaillé son sol. Alors ce que font aussi, il faut être juste, les producteurs classiques de bananes martiniquaises et guadeloupéens, ils ont redécouvert que, voilà, qu'avec un sol de qualité, ben, voilà, maintenant ils avaient des fourmis, ils avaient des vers de terre, et que ben, quand il y avait des fourmis, des vers de terre, ils avaient moins d'attaques parasitaires. Mais on n'en est pas encore, évidemment, à du bio. Mais néanmoins, c'est possible. Mais sur les collines classiques où on fait de la banane, il va falloir en fait purger encore pendant des années et des années la catastrophe du chlordécone.
Qui était l'insecticide du charançon. Hein.
C'est ça, l'insecticide qui était balancé pour lutter contre le charançon, qui effectivement était un véritable ravageur de culture. Mais en la disant, on a eu la main un peu lourde.
Merci à vous Frédéric Danhé. Alors au menu de cette émission, je vais vous emmener principalement dans la vallée du Galaison. C'est très beau, c'est dans les Cévennes, on va la découvrir, vous allez comprendre que l'humain et le naturel donc se mélangent merveilleusement. Et puis nous irons jeter un petit œil du jetable au durable avec Laetitia Vasseur. Notre premier disque choisi par Muriel Pérez, voici Olivia Ruiz qui va nous donner son secret.
Tout me dit que tu mens, tout me dit comment tu te tais, tout me dit que c'est trop troublant pour ne pas être vrai. Tout en toi dit que je te plais, il faut sauter dans le grand bain, tout en toi m'a percuté, c'est un foutu coup du destin. Dis-moi ton secret, je le cacherai sous mon lit, je le protégerai comme un oiseau défend son. Qu'as-tu donc dans la tête pour ne pas te lancer, rester figé à me
Quel bonheur, ce soleil, cet air, ce parfum, ces collines, ces arbres, ces oiseaux, ces œufs à la coque.
France Inter, CO2 mon amour. Avec Denis Chessoux.
Mais oui, respirez, nous allons dans les Cévennes découvrir la vallée du Galaison.
La balade de Denis Chessoux.
C'est un petit territoire charnière entre une aglo et le cœur du parc national. Et je crois qu'on a fait redécouvrir aux habitants leur vallée, la beauté du territoire dans lequel ils vivent. Les gens ont une fierté d'être dans cette vallée, reconnue maintenant pour la qualité de ses paysages, la qualité de sa vie tout court.
Il faut imaginer, Stéphane Garnier, en fait, cette vallée en 1850, elle est évidemment complètement différente.
Ah oui, elle est complètement ouverte. Il y a à peine 10-15% de forêt, d'espace qui n'est pas exploité. Et on peut se voir dessiner sur les flancs tout un système de terrasses, tout un système d'infrastructures qui gère l'eau, qui rend ce terrain très caillouteux, très rocheux, cultivable pour une population qui, à cette époque-là, est bien plus importante dans le haut de la vallée, dans la partie la plus rurale, dominée par le verger de châtaigniers et des troupeaux qui se promènent un peu partout.
Allez, c'est parti, arpentons le schiste des Cévennes et découvrons donc le Galaison. Alors le Galaison, c'est un affluent du Gardon d'Alès. C'est une rivière de 25 km qui prend sa source en Lozère, à 900 mètres d'altitude, et qui descend jusqu'aux portes d'Alès, dans le département du Gard. Et évidemment que cette vallée, on se doute bien qu'elle est peu habitée par le manque d'activité, par l'exode rural que l'on connaît un petit peu partout. Les enfants sont partis à la ville, ils seront flics ou fonctionnaires, plutôt que de monter des murettes. Et pourtant que cette montagne, les arbres, les forêts qui recouvrent le bassin versant, ouais, que cette montagne est belle. Donc c'est un trait d'union entre le haut et le bas de la vallée qui est tout à fait intéressant. Donc on est bien dans le parc national des Cévennes, hein, qui travaille main dans la main avec le syndicat des Hautes-Vallées Sénoles, le syndicat de cette vallée du Galaison. Et le pari, c'est d'intégrer bien sûr l'homme dans cette démarche. Alors nous allons pouvoir entendre Stéphane Garnier, qui est le délégué territorial de ce parc national des Cévennes. Et puis Yannick Dominique Louche, qui est l'ancien maire de Sandras et qui est vraiment l'âme de cette histoire que l'on va donc vous raconter. Vous prenez vos chaussures de marche et c'est donc l'histoire d'une petite vallée qui a la tête dans le bleu du ciel et les pins et puis les pieds dans le charbon, mais avec une très forte identité. Nous allons vers le pont de la Fage.
Ce qui caractérise notre démarche, c'est on travaille dans le cadre du programme MAB, Homme et Biosphère, de l'UNESCO, depuis 25 années maintenant, puisque en 92, 91, 90, le parc national qui a en charge la réserve de biosphère des Cévennes nous a proposé d'être cette vallée, cette petite vallée.
Du leader, un peu.
Un site expérimental, voilà, de ça. La démarche. Et du coup, ça nous a donné des tas d'idées pour essayer de remettre de la vie et essayer de traiter les problématiques de désertification, d'envahissement, du pin maritime qui a pris la place peu à peu du châtaignier.
Alors qui ça, était faut abandonné. Expliquer, parce qu'en fait, le pin maritime, il arrive au moment donc où les mines commencent à s'ouvrir parce que son bois va permettre d'étayer les mines.
Voilà, c'est au 19e siècle que les choses se sont... À la fois, c'est paradoxal parce que les choses se sont gâtées pour la nature, mais socialement, elles apportaient du travail, des salaires aux habitants. Et effectivement, le soutènement des mines qui était fait en ferraille a été remplacé par le soutènement en bois de pin parce qu'il avait la caractéristique de craquer avant de casser. Et donc, il avertissait les mineurs.
Yannick Louche, comment on met les gens concrètement dans la boucle ? Pour qu'ils puissent s'emparer de leur territoire.
Notre première action a été de travailler sur la réhabilitation de la rivière, qui était aussi un peu abandonnée, puisqu'il y avait quasiment plus d'élevage, plus d'animaux, les moutons, les chèvres, qui entretiennent assez naturellement la ripisylve, alors que c'est une rivière magnifique, vous la voyez là sous ce pont. Là, y habite le castor, la loutre, l'écrevisse à pattes blanches, le barbeau méridional, etc. Donc on a travaillé sur cette réhabilitation et les gens ont vu que nos théories se concrétisaient. Oui. On a fait de même sur les questions agricoles et forestières. Donc on a commencé à trouver les moyens d'aider à l'installation ou au maintien d'agriculteurs, éleveurs. On a utilisé tous les moyens qui étaient à notre possession, notamment des moyens qui auraient pu rebuter les gens. On est par exemple un territoire... Natura 2000, espace Natura 2000, espace naturel sensible.
Pour eux, ça veut dire des interdictions.
Voilà, ça paraissait être que des contraintes. Ouais. Et on a essayé de faire de ces contraintes des atouts. Natura 2000 nous a permis de mettre en place des mesures agro-environnementales pour les agriculteurs, nous a permis de passer des contrats Natura 2000 avec les propriétaires. Ça a permis, par exemple, d'enlever du pin maritime, de rénover de la châtaigneraie. On a parallèlement créé un atelier de transformation. Du coup, il y a eu de la plus-value sur la châtaigne. Et du coup, on a relancé à l'activité économique autour de la châtaigne. Et on essaie de faire ça de la même façon. On parlait du pin maritime qui était a priori un problème pour nous parce qu'on ne le valorise pas. Ouais. Donc l'idée, c'est de le valoriser et qu'il soit à sa place et qu'il n'envahisse pas tout et qu'en même temps, il soit utile. Donc on essaie de faire de ce bois un bois d'œuvre.
Plus bas dans votre commune, donc à Sandras, là vous êtes en train de travailler, de monter un bâtiment collectif.
Voilà, on va créer un bâtiment pour recevoir tous les professionnels de santé, un bâtiment accessible du coup. Et on va le faire à ossature pin maritime, sorti de la forêt communale, donc en circuit très court. L'idée, c'est de faire avec du local, de mieux le valoriser, de le valoriser sur place et de faire du circuit très court.
Aymeric Sulmont, là, je vais me tourner vers vous parce que vous êtes garde-moniteur de ce parc ici des Cévennes. Qu'est-ce que raconte pour vous ce paysage ici ?
Mais c'est un paysage, moi je suis né là en fait, je suis né au milieu des chênes verts, au milieu des châtaigniers, au milieu des pins. Et c'est en travaillant ailleurs que j'ai compris l'originalité, la valeur de ce territoire. J'ai travaillé dans les Pyrénées en tant que garde du parc. Mm-hmm. Et en travaillant là-bas, en faisant des inventaires du milieu naturel, je me suis rendu compte que la valeur de ce que je trouvais, c'était très intéressant scientifiquement parlant, mais c'était pas réapproprié par la population locale, c'est-à-dire qu'on découvrait des espèces très rares, protégées, etc. Mais On était dans des parcs sanctuaires où, qui sont extrêmement bien protégés, où l'homme est un peu mis vraiment de côté. Et l'originalité du parc des Cévennes, comme c'est très humain, dès qu'on trouve quelque chose d'intéressant, on n'est pas sûr qu'il va être conservé. Et donc, il y a tout intérêt à le transmettre et à sensibiliser le propriétaire qui est là, le chasseur, le pêcheur, l'habitant qui est là, pour lui dire « ce que tu as là, là, c'est un patrimoine qui a de la valeur ». Et c'est l'originalité du travail qu'on a fait ici dans le Galaison, c'est que on a fait tout ce travail d'inventaire de tout ce qui était rare et intéressant au niveau botanique, notamment. Et c'était les élus qui nous demandaient ça, c'était assez exceptionnel.
Ah oui.
C'est eux qui voulaient, mais dites-nous ce qu'on a de rare chez nous, parce qu'on veut le conserver, on veut quand même développer économiquement cette vallée, mais on ne veut pas sacrifier notre patrimoine naturel. Moi, j'ai commencé la découverte de la nature par les cailloux. Dès que je trouvais un nouveau caillou, un nouveau minéral, j'étais très content, j'étais très fier. Puis c'est passé aux orchidées. J'ai commencé par les orchidées en botanique. Puis petit à petit, j'ai élargi à toute la botanique. Je suis en train de passer aux mousses, aux lichens. J'essaie de toujours redécouvrir le même lieu avec un œil neuf. J'aime beaucoup transmettre l'émotion de la découverte. Alors, c'est palpitant d'aller sur un territoire, de dire, tiens, ça sent telle espèce. Je sens que je vais trouver cette espèce-là.
Alors là, qu'est-ce que l'on sent ici?
On est dans une chênaie verte. Et puis avec un sous-étage là, de brouillard arborescente. C'est vraiment typiquement la végétation méditerranéenne, chaude, on appelle ça l'étage méso-méditerranéen. Là-dedans, si on commence à fouiller, si on trouve un peu des affleurements rocheux, on va trouver par exemple la fougère de l'Ardèche. On va également trouver, si on s'intéresse aux mousses, on va pouvoir frotter avec son doigt une hépatique à thalle. C'est une petite mousse très discrète.
Ouais.
Et si on la frotte, on va sentir une odeur extraordinaire. C'est une odeur de bonbon à la sève de pin.
Ah, c'est ça.
Ça, c'est génial.
Ah oui, d'accord.
Mais il y a un autre problème, c'est le sanglier qui est en train de détruire toutes les constructions des anciens cévenols, c'est-à-dire toutes ces terrasses qui avaient un effet tampon énorme. Ils protégeaient énormément les sols de l'érosion. Et aujourd'hui, toutes les têtes de mur commencent à partir. Les sangliers sont capables de soulever les têtes de mur. C'est vraiment, avec les crues cévenoles, l'agent érosif numéro 1 des Cévennes.
Je vais me tourner maintenant vers Marc Dombre, qui est un homme du caillou, un homme de la pierre. Bonjour Marc.
Bonjour.
Alors Marc, là vous êtes chez vous depuis de très très nombreuses années, et vous faites partie de ces gens qui se disent quand même, ce travail des anciens là qu'on a sous les yeux, ils nous ont quand même sacrément épatés avec leurs murettes, avec leurs murs de pierre sèche, et vous avez voulu vous continuer cette histoire-là. On est toujours bluffé à cette période du béton de se dire que quand même on faisait vachement bien, très costaud, et ça perdurait dans le temps, donc avec ce travail que vous mettez vous en valeur.
Évidemment, le béton a des usages intéressants, mais ça ne remplace pas au niveau de la pierre sèche le drainage des terrains, ce qui est très important. Parce que en zone de montagne, comme on habite ici, les bancelles, les terrasses faites de murs en pierre sèche permettaient la circulation de l'eau, la réguler et empêcher qu'il y ait une accumulation hydrostatique trop importante à l'arrière des murs quand il y avait un épisode cévenol. D'ailleurs, on voit très bien quand il y a un gros épisode cévenol que un mur en pierre sèche va quelquefois se déformer un peu, mais va résister. Mais par contre, un mur en béton finit par se renverser comme une crêpe parce que il n'y a pas assez d'écoulement pour l'eau, il n'y a pas assez cet effet drainant des sols.
Le paradoxe, c'est qu'on parle de pierre sèche et en même temps, c'est l'ami de l'eau, quoi. Ça fonctionne ensemble.
Voilà, oui, et peut-être il faut rappeler qu'est-ce que ça veut dire pierre sèche aussi. Pierre sèche, ça veut dire des pierres qui sont assemblées à sec, par calage de pierres entre elles, sans usage d'un liant qui sera de la terre ou un sable avec du ciment. D'abord,
au niveau esthétique déjà.
Au niveau esthétique, bien sûr. Ensuite, il y a le côté biodiversité, évidemment. C'est-à-dire que dans un mur pierre sèche, il y a toute une vie qui s'installe. C'est-à-dire qu'il y a un tas de bestioles, un tas de petites plantes qui s'installent là-dedans. Donc ça intéresse aussi la biodiversité. On est dans un circuit court qui est pratiqué par des gens qui habitent dans le coin et qui réutilise la pierre. Alors c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que quand vous avez une brèche dans un mur qui s'est écroulé, vous allez réutiliser tous les matériaux. On va réutiliser la vieille pierre récupérée sur place, et ça, je dirais, c'est éternel.
«
ce n'est pas la fin du voyage. Non, 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 non. Là, je vous signale que vous avez une école professionnelle de la pierre sèche qui a été créée en Lozère, donc à l'Espinasse. Si cela vous intéresse, d'ailleurs, on met les coordonnées sur le site de CO2 Mon Amour, puis on va poursuivre la balade, rencontrer aussi des éleveurs qui font du pélardon, toujours dans les Cévennes. Juste après qui? Monsieur Dylan, Robert de son prénom. Oui, c'est Bob.
Out of the tree of life, I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. Still, it's a real good bet, the best is yet to come. The best is yet to come, and baby, won't that be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warm-up's underway. Wait till our lips have met. And wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and baby, won't it be fine? The best is yet to come, come the day you're mine. Come the day you're mine, I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wine, we're gonna dream the cup dry. Wait till your chops are ripe for these lobsters around. Think you've flown before, but baby, you ain't left the ground. Wait till you're locking my embrace. Wait till I draw you near. Wait till you see that sunshine blaze. Ain't nothing like it here. The best is yet to come, and baby, won't it be fine? The best is yet to come, come the day of mine, come the day of mine, and you're gonna be mine.
The best is yet to come, le meilleur reste à venir. Merci Monsieur Dylan et Muriel Pérez qui a donc choisi ce disque. Deuxième partie, c'est toujours donc notre balade dans cette vallée du Galaison, je vous le disais, hein, à la fois qui a les pieds dans le charbon du côté de l'Est, mais qui a la tête dans le bleu, dans le vert des pins maritimes. Nous sommes donc dans les Cévennes et ça sent la chèvre et ça sent le pélardon du côté de Périès, ça veut dire l'endroit où il y a des poiriers.
Alors Robert Plantier, là, chez vous, on change de lieu, on est à Périès.
Ouais, Soustelle, ouais.
Soustelle, Périès.
Vous voyez les voiles là-haut? Montégoile là-haut?
Ah, les voiles, là.
C'est Montégoile.
Et donc le Galaison, j'allais presque dire, à une ou deux vallées près, donc est au pied. Alors à quoi il correspond pour vous ce Galaison? Donc c'est une histoire bien sûr familiale.
Ouais. Bon. Ah, mais c'est une terre de refuge. Mais Michel peut peut-être vous parler un peu de ce qu'il aime aussi.
Ah, mais le Galaison, c'est... Déjà dans la vallée, pour moi, c'est une source de vie. Hein. C'est l'eau. Et dans nos Cévennes, c'est primordial, l'eau.
Dans cette nature, Robert Plantier, qu'est-ce qui vous touche? C'est vrai que vous êtes sans arrêt dans ce décor-là, donc c'est le vôtre.
Et je pense que c'est des lieux encore qui... On a encore une vraie sensation de liberté. On le ressent, quoi. C'est le maquis, c'est un peu comme les Corses.
Quand on respecte la nature, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on fait au quotidien? On prélève ce qu'il faut?
On prélève, mais sans trop. Il ne faut pas penser à la richesse ici. On s'enrichira jamais.
Il faut savoir prendre ce qu'elle nous donne pour vivre et pas en demander plus.
Belle, Lobo! Belle, viens! Belle! Belle!
Pour remobiliser du foncier, il faut que les propriétaires soient convaincus que ce foncier a de la valeur et qu'effectivement, il y a à nouveau des gens qui peuvent en vivre avec des modes d'exploitation et de commercialisation, surtout, différents de ceux qu'ils ont vécu, eux, ou leurs ancêtres. Et un outil comme l'atelier du pain des 10, qui a permis de démontrer à nouveau qu'il y avait une nouvelle dynamique autour de la châtaigne, par exemple, apporte du sérieux et incite les propriétaires à mettre à disposition leur terrain. Mais la position des élus, d'une structure comme le syndicat du Galaison aussi, est très importante. C'est-à-dire que c'est elle qui est un peu la caution, souvent, l'intermédiaire entre ces initiatives privées et puis ces propriétaires, et qui rassure et qui leur dit non, mais voilà, faites-leur confiance, mettez à disposition vos terrains.
Ils vont vous nettoyer ça aussi. Voilà.
Et ils peuvent en vivre, on vous garantit, oui. Ils peuvent en vivre. Et donc, financer de la restauration du milieu auprès des propriétaires privés, en le conditionnant à la mise à disposition derrière à des agriculteurs qui en assureront l'entretien parce que leur dépendance, ils en auront une dépendance économique, c'est aussi une solution.
Anne Le Gille, on est face donc à Biosfera là, qui vient d'ouvrir ses portes donc ici à Sandrars. Donc c'est un centre d'interprétation de l'environnement. Ça parle évidemment à la directrice du parc national des Cévennes que vous êtes. Qu'est-ce que ça vous inspire, un lieu pareil ?
Ah, c'est un lieu magnifique. C'est un centre d'interprétation du territoire.
Ah,
et oui. Je pense que si on aime son territoire, c'est important de le connaître, de le comprendre. Nous, Parc National des Cévennes, notre ambition, c'est de protéger ce territoire, de faire qu'il soit vivant. Ah, et Biosfera, ben, c'est un outil, justement, au service de la compréhension de ce territoire. C'est des gens qui, avant tout le monde, avant que ça soit à la mode, on crut dans le fait qu'on pouvait concilier protection de l'environnement et développement économique et social. Dans le Galaison, on fait ça depuis plus de 30 ans.
Qu'est-ce qu'elles attendent, ces montagnes ?
Elles attendent surtout, je crois, le retour de l'homme et de l'activité, mais de l'activité bien pensée, quoi, de l'activité respectueuse des milieux. Mais depuis quelques décennies, elle souffre un peu d'abandon. Voilà. Les Cévennes, c'est un paysage fabriqué, construit par l'homme. Donc il faut que l'homme réintervienne via les activités agricoles ou forestières. Alors, pour le coup, là, on s'est rapproché du monde de la science et on est en train de lancer une étude. C'est dans le cadre d'un doctorat d'une jeune femme qui va étudier les molécules de tanin de châtaignier avec la perspective de l'utiliser comme retardant au feu. Et ça nous intéresse parce que, du coup, on balance chaque fois qu'il y a des incendies du retardant chimique qu'on achète, je crois, aux USA d'ailleurs, alors qu'on pourrait avoir du retardant naturel. Voilà, il y aurait un intérêt à la fois écologique et économique pour essayer de relancer à certains endroits la châtaignerie.
Émeric, là, entre deux pierres,
qu'est-ce qu'on a trouvé ?
Des picrotes.
Eh ben oui, là, c'est typique du marquage de la genette. La genette, c'est un petit animal qui ressemble à un chat, qui était illustré dans les vieilles tapisseries. C'était le chat du Moyen-Âge. À l'époque, on n'avait pas de chat parce qu'il était maudit, le chat. Et on prenait des genettes. C'est une espèce qui est présente sur toute la moitié sud de la France, qui est très discrète. Mais quand on connaît bien l'espèce, on sait où trouver ses crottes. Il suffit d'aller sur des promontoires rocheux dans les Cévennes, notamment, ou sur des lieux comme ici. Là, on est sur le pont. Et elle a posé sa crotte et vraisemblablement, elle va régulièrement venir la poser là. Souvent, on peut trouver des crottiers où il y a des tas de... Il y a un demi-mètre cube de crotte, donc il y a plusieurs générations de genettes qui viennent faire leur crotte pour marquer leur territoire.
Bonjour, bonjour à vous.
Bonjour.
Voilà, alors là, Hervé Roche, atelier transformation du pain des 10. Alors là, c'est formidable parce qu'en fait, ça a permis de relancer la châtaigne ici.
Mais là, oui, ça a ouvert pas mal de terres par ici, des gens qui se sont remis à faire de la châtaigne ou du jus de pomme aussi. On a pas mal de petits coopérateurs.
Donc, c'est vrai que ce sont les gens qui vont vous apporter leurs pommes et leurs châtaignes.
Voilà, ils viennent avec leurs pommes et leurs châtaignes. Nous, on est là en tant que technicien. Moi, je fais marcher les machines, je fais l'entretien. Ouais. Et c'est eux qui transforment. Je leur explique comment ça marche, comment ça fonctionne. C'est eux qui font leurs produits.
Alors, qu'est-ce que l'on fait ? Qu'est-ce que l'on sort ici ?
Qu'est-ce qu'on sort ? Donc, on fait pas mal On transforme à peu près entre 35 et 37 tonnes de châtaignes.
Donc, et qu'est-ce qui sort après pour le palais? Racontez-nous, parce que ça a quand même été l'arbre à pain et qui a nourri pendant des siècles les gens ici. Donc aujourd'hui, on fait quoi?
Nous, là, on en fait donc des marrons naturels. Donc ça, c'est mis en pot, voilà, le marron naturel. Quand elles sont bien épluchées, on met ça en pot directement et on le stérilise. D'ailleurs, maintenant, il y a des nouveaux produits on fait qui sont pas mal, avec de la tapenade aussi, par exemple. Voilà,
tapenade de châtaigne?
Oui, avec de la tapenade, mélange avec les marrons naturels,
voilà,
avec de l'huile d'olive. Voilà, il y a pas mal de petits produits comme ça qui sont pas mal. Du coup, c'est que ça rouvre du coup, des petits territoires, un peu de partout, dans les Cévennes.
Ah, Stéphane Garnier, là, c'est bien parce que vous emmenez dans vos coins, j'ai presque dire vos coins d'enfance, parce qu'au-delà de votre activité hein, de délégué territorial au Parc des Cévennes, vous êtes quand même un gars du cru. Et là, on est au milieu des châtaigniers de votre grand-père.
C'est des vieux arbres, c'est des arbres qui ont deux siècles, trois siècles, qui nous ont été légués par les générations. Oui, ben, il me fait penser à mon grand-père. Et il me fait penser à son grand-père, à lui, qui l'a certainement semé ou greffé. Et me dire qu'il est encore là pour nous nourrir et qu'il le sera peut-être encore pour nourrir mes enfants ou mes petits-enfants. Je trouve que voilà, c'est une continuité, une solidarité entre les générations qu'il est important de maintenir et de cultiver.
Robert Plantier, il y a un mot quand même qui définit assez bien, on l'a compris, les Cévennes, c'est le mot tolérance.
Tolérance, espérance, résister. Tout ça, ce sont des mots qui résonnent dans nos vallées surnoles, au-delà de la vallée du Galizon.
Merci à vous, Émeric Salmon, donc botaniste du parc Marc d'Ombre et ses pierres sèches, Robert Plantier et Michel avec Laure Pélardon, Anne Le Gilles, Stéphane Garnier et puis Yannick Louche. Merci bien donc à la fois pour ce bol d'air et puis de montrer que cette vallée-là ne renonce pas. C'est-à-dire que c'est le mariage entre l'homme, la nature et aussi l'économie locale, avec donc maintenant aujourd'hui plus de 20 tonnes de châtaignes qui sont extrêmement valorisées. Et puis donc bien sûr cet amour du pays. Si vous passez par Sandras, vous avez donc Biosphéra qui est tout à fait à découvrir. Autre sujet dans quelques instants, et ben ce sera Laetitia Vasseur, on va parler du jetable au durable.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this.
Give me a little kiss. sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Buzz, 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 buzz. Fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming.
Till something's fine, you keep dreaming.
Gotta keep dreaming.
But in your dreams, whatever they be, you've got to make me a promise,
oh, yeah.
Promise to me you'll dream a little dream of me.
Que c'est bien, Armstrong et Fitzgerald, vous êtes bien sur France Inter, c'est Où de mon amour.
Je disais, je suis sûre qu'on aurait dû prendre un architecte, voilà. Je sais pas, une intuition.
CO2, mon amour.
Dites-moi, au compteur, vous, qu'est-ce que vous m'avez mis comme ampérage au compteur? C'est parce que moi, ça me laisse pas une grande marge de manœuvre, ça saute. Putain, je vous le dis, ça saute tout le temps. Ben, c'est vraiment ou brushing, ou sono, ou jardin éclairé, ou dinde dans le four, faut jongler, hein. On fait rarement les quatre en même temps. Et même moi, j'ai peut-être envie de faire mon babyliss avec un fond de Mozart tout en me disant où est-ce que mon jardin est joli la nuit et miam miam, il y a une bonne date dans le four. Alors le compteur, vous le gonflez, vous en mettez deux, vous me collez un mec qui pédale dans la cave, mais moi je veux qu'il y ait du jus!
Sur France Inter.
Eh oui, du jus de l'électricité, de l'énergie avec vous Laetitia Vasseur, parce que vous êtes la cofondatrice de l'association HOP, c'est notre troisième sujet, halte à l'obsolescence programmée, et donc aussi co-auteur du jetable ou durable, en finir avec cette fameuse obsolescence chez Gallimard Manifesto. Alors en fait, vous êtes toute jeune, quelle était votre appétence pour le sujet, comment c'est né ça?
À la base, j'ai été sensibilisée par un documentaire, Prêt à jeter, qui est passé sur Arte et qui m'a beaucoup parlé parce que je trouvais ça très intéressant, cette confrontation de la société de surconsommation, les impacts sur les déchets, etc. Et donc, dès ce moment-là, j'ai eu envie de travailler sur le sujet. Et ensuite, je suis partie voyager un peu. Et là, je me suis confrontée aussi à l'envers du décor dans des pays du monde, ou des manières de consommer ou de ne pas consommer, d'être dans une forme de sobriété. Et là, du coup, j'ai eu envie de passer le cap de fonder une association plus citoyenne et militante.
Qu'est-ce que l'on constate quand même aujourd'hui? C'est que si on n'a pas de jetable, notre système de consommation, il va quand même s'écrouler en partie.
Alors, c'est un peu le motif, la motivation de l'obsolescence programmée, c'est essayer de faire tourner un modèle économique de façon artificielle. Mais est-ce que pour autant, si les objets étaient durables, tout s'effondrerait? Je ne pense pas.
Non, mais ça veut quand même dire qu'il y a des gens qui ont travaillé sur certaines pièces de machines à laver pour que, on va dire, un axe de tambour puisse être changé au bout d'un certain temps et si possible après l'assurance.
C'est ça, il y a vraiment une logique de non-durabilité, de faire en sorte que les produits ne durent pas. Donc il y a plusieurs types d'obsolescence. L'obsolescence technique qui va être, par exemple, sur les téléphones portables, on peut pas changer la batterie alors que la batterie c'est inconsommable, ou sur certains ordinateurs maintenant. Après il y a l'obsolescence logicielle, donc là ce n'est pas la matière en elle-même, mais c'est le software, le logiciel à l'intérieur qui va faire ralentir la machine ou ça va le rendre inutilisable à cause du logiciel. Et puis il y a l'obsolescence esthétique qui là concerne plus les ressorts de mode et de marketing, design, pour vous faire croire qu'il faut toujours consommer des produits neufs.
Alors, évidemment, si on se retourne quand même au début du siècle dernier, on constate qu'il y a encore une ampoule qui fonctionne merveilleusement.
Oui, l'ampoule de Livermore, je dis pas de bêtises, donc qui dure depuis plus de 100 ans. Donc comme quoi, des produits qui durent, c'est possible.
Ouais, donc c'était une ampoule à incandescence. Et donc après, les fabricants ont revu différemment leur affaire pour se dire, ah bah oui, mais attendez, une ampoule qui va durer aussi longtemps, c'est quand même pas bon pour nous, quoi, ça.
Tout à fait, donc c'est le cartel Phébus qui s'est regroupé pour limiter volontairement la durée de vie des ampoules en se disant, voilà, on va mettre un nombre d'heures maximum. Et ensuite, tout le monde s'est aligné sur une durée de vie pour pouvoir renouveler constamment. C'est assez symbolique de l'obsolescence programmée en général que maintenant on observe sur beaucoup d'autres objets.
1937, alors là, un brevet déposé par Dupont de Nemours, on invente le nylon et on se dit c'est inusable. Ah oui, c'est inusable, mais si c'est inusable, ça va pas le faire.
Exactement, les collants aussi, parce qu'on parle souvent des équipements électriques, électroniques qui font beaucoup de déchets, mais on pense pas forcément aux collants qui sont aussi un produit qui fait beaucoup de déchets, puisque les femmes l'utilisent entre 3 et 5 utilisations, selon un sondage qu'on a mené au sein de Hop.
Et pas plus.
Oui, et donc c'est très énervant déjà pour toutes les filles, elles savent très bien de quoi je veux parler. Et puis, ça ne se recycle pas, c'est un déchet direct, et ça coûte très cher au final, et là, il y a vraiment quelque chose d'aberrant dans le fait que c'est du nylon à la base, une matière ultra résistante, on fait des fils de pêche avec du nylon, et pour autant, aujourd'hui, au 21e siècle, on n'est pas capable d'avoir des collants qui ne se filent pas au bout de 3 fois. C'est...
Alors, quelles sont maintenant, on va dire, nos solutions? Il y a la réparation, mais parfois on va vous dire, bah oui, mais ça coûte moins cher d'acheter un objet neuf que de le faire réparer. Mais c'est quand même en train de partir. On a plein de repères cafés à droite, à gauche, et puis de boutiques maintenant qui s'installent.
En effet, les solutions, elles se situent à plusieurs niveaux, collectifs et individuels. Collectifs, c'est essayer d'améliorer les lois pour qu'elles nous protègent davantage, pour des produits plus durables, etc. Il y a collectif, c'est aussi les entreprises, les modèles économiques qui doivent être revus. Et individuel, c'est notre responsabilité à nous en tant qu'acheteur final. On a le choix, on a un grand pouvoir entre les mains. Donc l'idée, c'est d'aller vers des solutions individuelles qui peuvent être déjà de mieux s'informer, de réparer davantage, de réemployer, d'acheter du seconde main. Mais quand on dit la réparation, en effet, on peut se dire, en fait, ça coûte vraiment très cher, etc. Aujourd'hui, comme vous dites, il y a un vrai mouvement de fond avec des repair cafés, des pièces détachées beaucoup plus accessibles, des tutoriels en ligne. Avec un petit peu d'effort, on peut essayer.
Et on peut apprendre nous-mêmes aussi à réparer.
Tout à fait, do it yourself, c'est très à la mode parce qu'on a envie de ne plus être aliénés aux objets. On a envie de reprendre le contrôle sur eux et de choisir nous-mêmes quand est-ce qu'ils ne marcheront plus. Donc c'est très intéressant, mais c'est accompagné, c'est nécessaire, par une logique de conception des produits. Et là, il faut un peu influencer les industriels, et c'est ce qu'on fait aussi au sein de Hop, pour leur dire, faites-nous des produits qui soient réparables.
Alors comment on réagit? On se dit, bon, allez, c'est bon, c'est des écolos, c'est pas grave, on continue comme avant, ou bien ça commence à percoler un petit peu?
Ça concerne vraiment pas que les écolos, parce que vraiment c'est un sujet très transversal qui touche tout le monde, qui énerve tout le monde, et les industriels commencent à le comprendre. Il y a quelques temps, on me disait, non, mais les consommateurs s'en fichent de savoir si leurs produits vont durer ou pas. Aujourd'hui, on est là pour leur dire non, c'est faux. Les consommateurs veulent des produits qui durent et les industriels l'entendent. Malongo avait lancé sur le marché une cafetière entièrement non obsolescente. Seb aujourd'hui promet que tous ces produits à 90% sont réparables entièrement pendant 10 ans. Donc, il y a une vraie volonté.
C'est-à-dire qu'on a les pièces détachées aussi derrière qui vont avec.
Oui, c'est la promesse de Seb.
Est-ce qu'il y a un délit d'obsolescence programmée ?
Tout à fait. L'obsolescence programmée, c'est un délit depuis juillet 2015. Donc aujourd'hui, c'est reconnu par la loi comme quelque chose d'illégal. Les entreprises encourent jusqu'à 2 ans de prison et de 300 000 euros d'amende. Qu'est-ce qui leur fait plus peur ? La peine juridique ou bien l'image de marque ? Quoi qu'il en soit, c'est un symbole très fort pour aller vers les solutions et vers des choses beaucoup plus durables.
Est-ce qu'il y a une véritable bataille, on va dire, du droit à réparer aujourd'hui ?
C'est le droit à avoir des pièces détachées disponibles. Aujourd'hui, il y a une loi qui a été votée en 2014 qui oblige à l'information pour savoir si oui ou non il y a des pièces détachées. Il a d'ailleurs été tellement mal écrit qu'on sait seulement... maintenant, l'obligation, c'est seulement de dire si on a des pièces détachées. Si on n'en a pas, on ne dit rien. Donc, nous, on est en train de faire un recours en justice pour que le décret soit mieux appliqué et mieux écrit. Ensuite, le droit à réparer, c'est d'avoir des produits qui soient mieux conçus, d'obliger à avoir aussi des pièces détachées, des choses modulaires, des choses faciles à réparer. Ensuite, tout le travail qui est fait autour de l'autoréparation, des tutoriels, des Fab Labs qui nous permettent de réparer plus facilement. Mais il faut aussi accompagner ça parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire réparer un ordinateur portable, c'est votre outil de travail. Demain, il tombe en panne, vous voulez pas le jeter, vous voulez le réparer. Mais si pendant 3 semaines, vous n'avez pas d'ordinateur pour travailler, vous allez avoir un petit problème. Donc il faut améliorer le service aussi qui va avec la réparation. D'avoir automatiquement un ordinateur de rechange ou d'avoir une extension de garantie plus longue, ben, ça fait partie des solutions.
Et derrière, il y a un business quand même, effectivement, de ces déchets, il y a un business du jetable. Ça intéresse aussi du monde, ce système-là.
Alors aujourd'hui, ça va quand même dans le bon sens. Il y a tout une direction vers le recyclage.
Oui.
Ça, c'est très bien, mais pour nous, ça doit être encore plus amélioré. Mais avant le recyclage, il faut aussi réemployer. Il faut aussi réparer. Parce que le recyclage, c'est aussi énergivore.
C'est les 3 R.
Tout à fait.
C'est ça.
Mais souvent, on oublie les 2 premiers. Donc ouais. Là, l'idée, c'est vraiment de pousser aussi l'action publique à faire en sorte que ces éco-contributions, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on achète un produit, par exemple une machine à laver, il y a jusqu'à 20 euros parfois que vous achetez qui est dédié à son recyclage.
Ouais.
Donc toute cette manne financière, elle sert uniquement au recyclage actuellement, alors qu'elle pourrait être aussi fléchée vers le réemploi, la réparation, pour qu'on ait des choses qui, avant d'arriver au stade ultime du recyclage, passent avant pour allonger la durée de vie du produit, qui ne soit pas directement considéré comme un déchet.
Du jetable au durable, édition Manifesto, Gallimard, signé Laetitia Vasseur et Samuel Sauvage. Vos messages aussi, 01 56 40 40 35. Tout d'abord, des étudiants parisiens.
L'exposition Paris, capitale verte de demain, se déroulera les 24, 25 et 26 mars à la galerie L'Aiguillage, au Frigo, dans le 13e arrondissement de Paris. C'est un projet réalisé par l'association InCité, fondée par 6 étudiants en médiation culturelle à la Sorbonne Nouvelle. Ce projet s'interroge sur l'avenir du développement durable parisien. L'exposition s'inspire de la ville néerlandaise Nimègue, lieu de résidence d'un membre de l'association. Cette ville est élue capitale verte européenne 2018 par le Parlement européen. Vous pourrez voir différentes œuvres et des projets architecturaux élaborés pour sensibiliser à l'écologie en milieu urbain.
Et le plastique, vous aimez le plastique ? Encore un message.
Bonjour, l'association Tous dans le même bateau des Sables-d'Olonne en Vendée organise un défi, une semaine sans plastique du 27 mars au 2 avril. Le principe de ce défi est de ne pas utiliser de plastique à usage unique, sac de caisse, cellophane, pot de yaourt, etc., de réduire sa consommation d'emballage d'une manière générale pendant une semaine. Adieu le sac en papier du boulanger. Du 27 mars au 2 avril, il faut trouver des solutions, des substituts vertueux en faveur de l'environnement. Non, on ne sort pas le 4x4 pour chercher du lait en vrac à 12 km. L'association a créé un groupe sur Facebook, Objectif Semaine sans plastique. Venez nous rejoindre et partager votre expérience, vos astuces, vos recettes. Vous pouvez également nous informer de votre participation en envoyant un message à semainesansplastique@gmail.com. Défi une semaine sans plastique du 27 mars au 2 avril. Faites-le dans votre coin ou avec l'association Tous dans le même bateau, mais faites-le, ne serait-ce que pour mesurer notre production de déchets.
Oh, un joli générique de fin pour vous souhaiter un excellent week-end. Merci à Dimitri Grenoff à la technique aujourd'hui, à Camille Blanès. Avec nous, notre collaboratrice Xavier Pestudia, donc, qui a colorié ce reportage et réalisé toute l'émission. Merci à Anne Gouzon, donc, qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Le répondeur, 01 56 40 40 35. Le podcast, vous en avez l'habitude. La rediffusion entre 5h et 6h du matin, donc, demain. Et puis, je vous retrouve au Salon du Livre. En fait, je vous attends au Salon du Livre la semaine prochaine. Évidemment, Radio France est partenaire depuis de très nombreuses années. Nous serons en compagnie d'Isabelle Saporta, de Francis Allais, de Fabrice Nicolino, peut-être d'un cuisinier, on ne sait pas encore. Et puis, l'As-tu lu mon petit loup, puisqu'on est dans les livres, ce sera demain à 19h54 après Les Petits Bateaux. Salut.
CO2 Mon Amour avec le WWF. Protégez les joyaux de notre patrimoine naturel, les Alpes, la Méditerranée. Plus d'infos sur les dons, legs et assurance vie sur wwf.fr.